Le grand dialogue.
Sigika Foba.
Et de Wani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumondi.
Chenni Beri. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le forum La Presse de ce soir, nous parlerons essentiellement de sécurité avec le renouvellement du mandat de la MINUSMA, la réduction du budget des casques bleus, le sommet du G5 Sahel prévu ce dimanche à Bamako. Nous aborderons aussi le projet de révision constitutionnelle et la situation des droits des enfants dans le pays, le Mali, sur la liste noire des États-Unis. Nos invités, tous journalistes, Serge Daniel, journaliste écrivain, ami Baba Cissé du Figaro du Mali, Baba Hamma, correspondant de Jeune Afrique au Mali, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre, et Boubacar Cissé, correspondant de Studio Tamani à Sikasso, au téléphone. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, bonsoir et bienvenue.
Le grand dialogue.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé à l'unanimité ce jeudi le mandat de la MINUSMA pour un an. Le secrétaire général devra élaborer un plan stratégique à l'échelle de la mission dans un délai de 180 jours. Le Conseil exhorte le gouvernement malien et les groupes armés à maintenir un dialogue pour accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Alors Serge Daniel, à quel changement peut-on s'attendre concernant la situation sécuritaire du pays avec ce renouvellement du mandat de la MINUSMA ?
Je vous l'ai dit tout de suite, il n'y aura pas de grand changement à mon avis. Vous avez vu la résolution qui a été adoptée. De toutes les manières, c'est tous les ans. Donc de toutes les manières, c'est une reconduite tactique, une reconduite annuelle du mandat de l'ONU. Dans la dernière fois, l'année dernière déjà, il était question de donner un mandat plus robuste à l'ONU, aux forces onusiennes ici sur place, pour faire face à la situation. Mais vous voyez, pendant un an, on n'a pas pu mobiliser ces moyens. Il y a eu quelques hélicoptères, vous vous souvenez de cette histoire de ballon qui était au-dessus de Kidal, qui devait assurer à la sécurité, ça n'a pas pu être fait. Donc, je n'ai pas grand espoir, je vous le dis franchement. La mission de l'ONU au Mali est au Mali, comme vous le savez, à la demande du gouvernement malien, mais sur le chapitre 7, il y a une décision de renforcer les troupes, c'est en fait la réalité était de créer des troupes d'élite pour faire face à la situation, mais il faut les moyens, c'est-à-dire il faut des avions, il faut des hélicoptères, il faut des hommes sur le terrain, et de mon point de vue, on n'a pas tout ça, et ce n'est pas en deux jours ou en deux mois qu'on aura cela.
Alors beaucoup ont demandé un mandat beaucoup plus robuste, et ce mandat a été jugé également robuste, mais quand on fait le bilan une année après, est-ce que c'est réellement un mandat robuste auquel
Non, pas du tout. Parce que pour moi, il y a deux choses. Il y a deux choses dans le septentrion malien. Si vous voulez vraiment un mandat robuste, il faut d'abord, c'est des troupes d'élite, si vous voulez, qui vont combattre d'abord le trafic de drogue. Si vous ne combattez pas le trafic de drogue, vous ne pouvez pas avancer, parce que c'est la drogue qui alimente notamment le conflit dans le nord du Mali. La deuxième chose, c'est que cette troupe d'élite a en face des gens qui font une guerre asymétrique. C'est-à-dire que vous avez les djihadistes qui posent des bombes, qui terrorisent les populations, alors qu'on a affaire à des armées régulières de l'autre côté. Donc ce qu'il faut, ce sont également, quelqu'un disait qu'il faut terroriser les terroristes, il faut adapter les troupes militaires sur le terrain aux réalités du terrain. Lorsque vous voyez des soldats qui sont en train de dormir ou qui montent la garde et que à moto, deux personnes viennent jeter des bombes, etc., il faut que des troupes soient motorisées, par exemple, dans certaines zones du Sahara, du Sahel et du nord du Mali, sinon on ne s'en sortira pas. Je n'ai pas du tout l'impression que nous avons aujourd'hui enfin le mandat qu'il faut, le médicament qu'il faut pour guérir le nord du Mali. Je n'ai pas ce sentiment-là. Mais la présence de la MINUSMA, et j'en aurais terminé, est nécessaire, utile. Il faut, à mon avis, j'en aurais vraiment terminé, il faut pouvoir coordonner les actions entre les forces Barkhane, l'opération Barkhane, les forces, les casques bleus de l'ONU, et on en reparlera tout à l'heure, les forces du G5 qui vont s'installer, j'espère, très bientôt.
Tout à fait. Alors, M. Ami Baba Cissé, vous êtes directeur de publication du Figaro du Mali. Est-ce que vous partagez l'avis de Serge Daniel quand il pense que le mandat renouvelé une fois de plus pour une année, il n'y aura pas de grands changements ?
Évidemment, bonsoir d'abord, bonsoir à Serge et puis à tous ceux qui nous écoutent. C'est un spécialiste qui a parlé. Je pense que l'année dernière, on y était ici. On était encore en train de parler de ce même mandat. Et à l'époque, j'ai pensé et j'ai estimé que ça n'allait pas changer grand-chose. Et aujourd'hui, le constat, c'est plus que cela. La MINUSMA est devenue
Plus que cela, c'est-à-dire qu'il y a eu changement?
Non, il n'y a pas eu changement, parce qu'aujourd'hui, l'administration qui est censée stabiliser le Mali en, souvent, en soutenant les uns et les autres, elle-même souvent se fait attaquer, comme Serge l'a dit, il y a une guerre asymétrique qui est là. Donc, il y a trop de victimes, il y a trop de morts dans les rangs de l'administration. Ce n'est pas à cela que les gens s'attendaient. On pensait que l'administration allait être beaucoup plus offensive, mais tel n'a pas été le cas. Elle est devenue une sorte d'organisation humanitaire. Aujourd'hui, elle agit beaucoup plus dans d'autres secteurs qui ne sont pas tout à fait militaires. Peut-être que c'est dans son mandat, mais ce qui est dit, on nous a dit que le mandat de l'administration, ce n'est pas de faire le combat contre les terroristes, et c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui. Comme Serge l'a dit, je pense qu'il doit y avoir une coordination entre Barkhane et puis les autres. Récemment, il y avait le général de la force Barkhane qui l'avait dit. Entre l'aménagement et puis Barkhane, il y a des liens, il y a une collaboration qui se fait. Mais de façon globale, je pense que ce que les Maliens attendaient, ça n'a pas eu lieu. L'aménagement est encore l'ombre d'elle-même. Elle n'a pas apporté le changement qu'on souhaite. Mais je pense, comme il l'a dit, c'est encore nécessaire. Il faut qu'il y ait des mesures beaucoup plus strictes. Parce qu'il faut que l'aménagement aille à l'offensive. Sinon, autrement dit, ce qu'on attend, ça ne peut pas se faire.
Alors, M. Boubacar Cissé, vous êtes correspondant de Studio Tamani à Sikasso. Est-ce que vous nous recevez?
Oui.
Alors, est-ce que vous partagez l'avis de Serge Daniel et également Ami Baba Cissé par rapport au changement qu'on attend par rapport à ce nouveau mandat de l'aménagement?
Alors, bonsoir, chers auditeurs de Studio Tamani. Serge Daniel, Bessissé ont décortiqué en tout cas, un peu le mandat de l'aménagement au Mali. Oui, je partage vraiment largement avec ce que les deux confrères ont dit. En ce qui concerne bien sûr le mandat de l'aménagement, à mon avis, il va falloir donner un peu de fond à ce contenu du mandat de l'aménagement pour les prochaines années. C'est-à-dire, il ne faut pas que la musulmane se limite seulement à ce rôle défensif. Nous avons que les attaques se multiplient un peu partout maintenant. Donc, il faut que la musulmane parvienne à se défendre et donner un autre rôle également à la musulmane pour que la sécurité soit un peu rehaussée, la sécurité puisse avoir un peu son niveau jusqu'à 80% encore. Au Mali.
Alors, M. Serge Daniel, tout de suite, vous disiez qu'il faudrait que l'aménagement puisse attaquer les trafiquants de drogue. Est-ce que son mandat lui permet de faire cela?
Justement, c'est ça le problème. C'est que le mandat de l'aménagement, au départ, ne lui permettait pas de le faire. Mais évidemment, il ne faut pas se limiter au mandat. Ce sont des militaires, avant tout. Des casques bleus, de la paix, mais des militaires. C'est-à-dire que lorsque ces casques bleus sont sur le terrain en position de danger, ils doivent forcément réagir. Les casques bleus, un casque, donc ils doivent forcément réagir. Mais au-delà de cela, il va sans dire que quand on parle de moyens plus robustes pour lutter contre ceux qui sont constituent un obstacle aux accords de paix, donc forcément on doit pouvoir réagir. Donc le fait de dire, c'est une excuse que de dire. D'ailleurs, j'ai entendu le monsieur Anadif, le patron de la MINUSMA, qui sait très bien de quoi il parle, dire on n'a pas besoin de mandat robuste. C'est-à-dire que si vous avez des forces qui sont sur le terrain, qui sont attaquées, ces forces doivent forcément réagir. Si vous quittez Gao pour aller à Kidal et qu'il y a des obstacles devant vous pour atteindre l'objectif Kidal, il faut forcément réagir.
Vous savez, justement, est-ce que ces forces doivent attendre qu'elles soient attaquées pour réagir?
Non, pas forcément, parce que si vous voulez, c'est ce que je disais, si vous quittez ici pour aller par exemple vers le Patrice Lumumba et qu'en face il y a des gens qui vous empêchent, sans tirer, mais qui sont armés, vous devez leur demander ce qu'ils font par exemple avec les armes. Est-ce que vous voyez? Donc c'est quand même très important de dire que la présence de la mission de l'ONU au Mali est importante. Si l'aménagement n'était pas là, parce que l'aménagement, c'est pas seulement que les armes, vous voyez, ils font du social, ils construisent des routes, ils construisent des ponts, ils font de la réhabilitation des bâtiments publics, disons les choses qu'elles sont, c'est une présence utile. Moi, j'ai vu des gens sur le terrain, qui sont pas là seulement parce qu'ils gagnent de l'argent. S'ils n'avaient pas un peu d'amour pour ce pays ou leur boulot, je pense qu'ils seraient partis. Mais il faut revoir tout ça. Moi, j'aime bien une expression, c'est, il faut rebrasser les cartes, si vous voulez, parce que quand même, il faut tirer chaque année, on tire les leçons de ce qui se passe sur le terrain, mais on n'avance pas. Là, il faut avancer. Je trouve qu'il faut avancer.
Mais si ce n'est pas dans leur mandat, s'ils réagissent, est-ce que ce n'est pas une violation des textes?
Ce n'est pas une violation des textes, puisqu'ils en face, quelqu'un, c'est Pasqua, un ministre français qui disait qu'il faut terroriser les terroristes. Si vous avez en face des terroristes qui vous empêchent de vivre, il faut arrêter. Si vous voyez, ce qui est frappant aujourd'hui, par exemple, dès qu'il y a une attaque contre l'armée malienne sur le terrain, les premiers qui arrivent avec leurs hélicoptères, c'est la MINUSMA. On l'a vu encore récemment vers Gundam, par exemple, où la MINUSMA est venue évacuer les blessés. Non, il ne faut pas que la MINUSMA soit seulement désormais dans cette posture. Il faut qu'on puisse prévenir. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des dangers dans des localités, par exemple. Il faut redistribuer, il faut revoir la carte sécuritaire de tout le pays, je pense, ça c'est mon point de vue, où on verra, par exemple, sur le terrain, dans un angle dit mort, par exemple, on verra les troupes maliennes à côté de la MINUSMA et non loin les troupes Barkhane. Il faut anticiper au lieu de subir, et c'est ce que je pense.
Alors, ami Baba Cissé, Serge a demandé tout de suite une collaboration entre notamment Barkhane et la MINUSMA. Quand on dit que la France est autorisée à réagir en cas de menace grave de sécurité à la demande du secrétaire général de l'ONU, est-ce que c'est une forme de collaboration entre MINUSMA et Barkhane?
Oui, la collaboration, elle est naturelle. Je pense que c'est le terrain même qui dicte cette collaboration. Comme on l'a dit, on n'a pas besoin souvent des ordres pour riposter lorsqu'on se fait attaquer. La MINUSMA souvent s'est fait même attaquer sur ses propres installations, ce qui est encore pire. C'est vrai, elle ne veut pas que la situation s'embrase. Mais cette collaboration entre Barkhane et puis la MINUSMA, je pense que nous l'avons dit, le général l'avait dit, il y a ce qu'on appelle cette intervention souvent des blessés. C'est vrai que la MINUSMA n'est pas CICR, la MINUSMA n'est pas ces organisations-là qui sont chargées de secourir des gens, mais un peu partout, souvent, les forces ne sont pas loin les unes des autres. Mais il n'y a pas cette cohésion, il n'y a pas cette attention qu'il faut pour que, même si souvent il y a problème, qu'on puisse, comment on appelle ça, souvent retrouver des assaillants. Parce que parfois, il y a des assaillants qui font des actes et qui disparaissent comme ça dans la nature. Cela ne doit pas se faire avec tous les moyens que Barkhane a. Je pense que Barkhane aussi fait des efforts, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à circonscrire tous ces éléments-là qui doivent amener cette stabilité, surtout au nord et un peu de plus en plus aujourd'hui au centre, parce que la MINUSMA n'est pas trop, je pense, au centre du Mali. C'est ce qui fait que c'est, en termes souvent, comme Serge le dit, le ventre mou.
Alors, écoutons Boubacar Boukoum, analyse par rapport à cette question.
Et la MINUSMA, aujourd'hui, joue un rôle prépondérant dans la stabilité du Mali. Donc, je pense que le renforcement est vraiment nécessaire, pour voire même indispensable. C'est vrai que le mandat de la MINUSMA a besoin de plus de tact et être plus offensif. C'est ce qui manque en réalité. Maintenant, il s'agit de leur donner un mandat précis pour leur demander d'aller débusquer les terroristes là où ils sont, les moyens adéquats à l'appui. Et cela ne se fera pas sans l'armée malienne, parce qu'en réalité, le terrain appartient à l'armée malienne. Je pense que quelle que soit la coupe budgétaire que les Nations Unies vont faire aujourd'hui à travers la contribution des États-Unis, cela ne remet pas fondamentalement en cause le mécanisme qu'il y a au Mali. Nous, on a besoin plus de structuration, parce qu'il s'agit d'équiper convenablement les militaires. En réalité, il s'agit juste de changer de stratégie, rendre le mandat plus robuste et donner les moyens adéquats. Et ces moyens, ils existent en réalité.
Monsieur Boubacar Cissé, que pensez-vous de cette analyse de Monsieur Boubacar Boukoum?
Oui, ce que mon homonyme Boubacar Boukoum a dit est vrai. C'est-à-dire que, écoutez, dans cette affaire, les populations du Mali sont aujourd'hui pressées. Ils sont pressés parce que quand on roule de la MINUSMA aujourd'hui, la force Barkhane et les forces armées du Mali doivent avoir une synergie d'action sur le terrain. Nous savons qu'aujourd'hui, le centre même est menacé. Le centre du pays est menacé. Et aujourd'hui, il va falloir vraiment multiplier les actions et qu'il y ait une synergie, comme je le disais, qu'il y ait une synergie d'action pour pouvoir contrer ces terroristes aujourd'hui, ces djihadistes aujourd'hui qui menacent le centre du Mali et même le nord du Mali. Aujourd'hui, nous voyons très mal comment est-ce que cette action va se mener, parce que le Malien aujourd'hui, je vous ai dit, est trop pressé. Ce n'est pas ce mandat de un an, deux ans, qu'on donne chaque fois à la MINUSMA. Et la MINUSMA ne peut pas encore faire du concret, en tout cas ce qui
qui sont très beaux aux yeux des Maliens aujourd'hui. Il va falloir revoir ce mandat de la ministre. Peut-être à long terme, ça vaut mieux que de donner des mandats de un an, de deux ans à la ministre pour mener des actions, et surtout des actions qui s'étendent vers l'humanisme, c'est-à-dire l'humanitaire, c'est-à-dire appuyer les actions de la civilisation. Les associations vont faire la santé, la société civile. Et bon, ça, cela ne parvient pas à mettre le Malien sur vraiment sa fin par rapport à la sécurité du pays aujourd'hui.
Serge, est-ce que vous pensez également que c'est un problème de durée de mandat?
Non, je ne pense pas que ce soit un problème de durée de mandat. Vous savez que il y a des lois internationales. Le Mali est membre de l'ONU, mais il y a des lois internationales. Si vous prenez toutes les missions sont toujours renouvelées chaque année, c'est-à-dire que vous faites le point chaque année de l'évolution. Je pense que la MINUSMA est peut-être probablement au Mali pour un bon moment encore. Les plus optimistes disent 7 ans, 8 ans, moi je vais dire même 10 ans, je crois, parce que il faut stabiliser le pays. L'erreur qui a été commise, c'était vraiment, je pense, le jour où la MINUSMA est arrivée, c'est-à-dire que sous le chapitre 7, dire qu'on était venu faire une interposition entre deux forces qui se battaient, qu'il y avait une force au nord et une force au sud, c'était faux. Ça n'était pas ça, parce qu'entre les deux forces, vous avez les trafiquants de drogue, je le dis, et puis ensuite, vous avez quand même les djihadistes, vous avez les trafiquants de drogue, les djihadistes, vous avez les trafiquants d'armes, etc. Donc c'est pas une question de durée, parce que c'est de renouveler automatiquement, enfin quasiment automatiquement chaque année. Je serais étonné par exemple.
Mais quand vous parlez de 10 ans, des fois ça fait peur aux Maliens, parce que certains pensent que le fait que le MINUSMA soit là dépend de la stabilité, de la non-stabilité du pays. Alors est-ce que ça veut dire que le retour à la paix, la stabilité du pays également va durer 10 ans?
Écoutez, là, en Côte d'Ivoire, la MINUSMA, il y a eu une mission de l'ONU qui est arrivée en 2003. Il y a eu des élections, je crois, 2 ou 3 ans après, mais ils sont partis il n'y a pas longtemps, donc il y a 10 ans. En plus, on n'était pas dans cette situation. Personne, même je pense que si vous demandez aux casques bleus, les casques bleus ne souhaitent pas rester. Il y a une idée répandue qui pense que...
Donc ça veut dire qu'après le retour de la paix, ils resteront pour la consolider.
Ah bien sûr, il faut consolider la paix, donc il faut consolider les institutions. Je vous ai dit tout à l'heure, la MINUSMA au centre, même au sud, construit des commissariats, l'administration, etc. Il y a des investissements. C'est-à-dire qu'ils se défendent mal. L'idée qu'on a de la MINUSMA dans un pays comme le Mali, c'est de les voir avec tous ces appareils de guerre et de dire, mais pourquoi ils ne combattent pas? Mais le problème, c'est d'expliquer pourquoi ils sont venus. C'est-à-dire qu'au départ, ils étaient venus pour une mission d'interposition, l'objectif n'était pas un bon objectif. On s'est trompés sur la nature de la crise au Mali. Je pense que c'est ça que nous vivons encore aujourd'hui. On va parler des problèmes, par exemple, institutionnels, si vous voulez, la part de responsabilité du gouvernement, la part des alliés, etc. Mais on s'est trompé sur les acteurs de la crise au Mali. Lorsque la MINUSMA venait, on pensait qu'elle venait pour faire une interposition entre deux forces et stabiliser le pays. Alors que du tout, moi je faisais partie de ceux qui disaient qu'après l'intervention Serval au départ, que absolument rien n'était réglé. Certes, ça a permis de stopper l'avancée des djihadistes vers le sud, mais ils se sont quand même, ils ont disparu dans la nature. Est-ce que vous voyez? Donc voilà.
Avant de donner la parole aux autres invités, chaque année les gens disent que le bilan est négatif. Chaque année les gens disent que le bilan de la MINUSMA est négatif. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils jouent pas réellement leur mission?
Si vous voulez, c'est quand on dit que le bilan de la MINUSMA est négatif, c'est par rapport, c'est-à-dire que pour le citoyen lambda, on doit, par exemple, Kidal doit revenir dans le giron du Mali, on doit pouvoir circuler librement, on doit pouvoir arrêter le terrorisme va pouvoir disparaître. Mais ça, c'est un vœu. Mais moi, j'ai pas du tout l'impression que le bilan est négatif. Est-ce que vous voyez? Parce que depuis 2 ans, j'ai comme quand même l'impression que la MINUSMA, on veut voir la réalité en face, si vous voulez. Moi, je suis allé, par exemple, comme vous, je suppose, à la dernière attaque d'un campement à proximité de
Kangaba.
Tout de suite, la MINUSMA était là. Donc, le problème, il faut pas réduire le rôle de la MINUSMA à remettre Kidal dans le giron de la République. Je le dis souvent, aller à Kidal, c'est très facile. C'est-à-dire, l'armée malienne peut demain aller à Kidal. Donc vous pouvez aller à Kidal demain, mais le problème c'est comment aller à Kidal, contrôler Kidal, empêcher qu'il y ait des troubles à Kidal, c'est ça qui est totalement difficile, parce que vous avez la contrebande. Tout ce qui vous avez à Kidal vient quasiment d'Algérie. La seule chose qui vient du sud, c'est le charbon. Tout le reste, les pâtes alimentaires, les vivres, même l'eau minérale que vous avez ici, on ne retrouve pas l'eau minérale, cette eau minérale là-bas. L'eau minérale vient de l'Algérie. Donc il y a vraiment des réalités. Il faut tenir compte plutôt de ces réalités. Je ne suis pas pessimiste, je vous le dis. Je suis optimiste, mais ça va, à mon avis, ça va être lent. Il y a un nouveau calendrier, on peut en parler entre le gouvernement et les groupes armés, il y a un nouveau calendrier.
Entre le 20 et le 30.
Pour aller à Kidal, mais il ne faut pas faire une fixation, de mon point de vue, sur Kidal. Si on fait une fixation sur Kidal, on ne s'en sortira pas.
Ami Baba Cissé, est-ce que vous pensez également qu'aujourd'hui, l'armée malienne peut partir à Kidal, comme le pense Serge Daniel?
Comme on l'a dit, il y a une manière. Sinon, on a vu que l'armée était partie à Kidal en 2014 avec Moussa Mara. Il y a une manière. Il ne faut pas faire effondrer tout ce qui est en train d'être construit progressivement. Moi, je suis convaincu que la MINUSMA a sa place. Peut-être que je ne partage pas tout ce qu'elle pose comme acte. Mais les plus pessimistes, les premiers à dénoncer la venue de la MINUSMA aujourd'hui pour aller à Kidal, on dit se servir de cette même MINUSMA. Je peux même citer des noms, les Omar Mariko et puis tous ceux qui ont les premiers dénoncé la venue de... Pour aller au nord aujourd'hui, il faut la MINUSMA, que vous soyez pour ou contre. Ça, c'est évident, ça. Maintenant, pour que ça puisse être stable, c'est là qu'on n'est pas arrivé. C'est pourquoi certains disent qu'il y a un échec. En fait, l'objectif, quand il n'est pas atteint, on peut penser qu'il y a un échec. Mais comme Serge l'a évoqué, il y a des faits qui sont là, il y a des avancées. Et Kidal, aujourd'hui, comme on l'a dit, le gouvernement ne peut pas aller à Kidal, malgré la date qu'ils ont fixée. Les groupes armés ne peuvent pas dicter à chaque fois leur désiderata, leur volonté. Je pense qu'un État doit s'assumer. Si les groupes armés doivent vous permettre d'aller à Kidal, on ne peut pas avancer. Le jour où ils ne sont pas contents, ils vont vous imposer une autre condition. Je pense qu'il faut qu'on trouve une vraie formule au problème. Et on a essayé avec la conférence d'entente, avec des accords, mais malgré ça... Il y a autre chose que nous ne maîtrisons pas. Nous ne sommes que des
observateurs. Mais récemment, ces groupes armés ont déclaré être... Ils l'ont fait plusieurs fois, bien sûr, mais cette fois-ci, ils ont vraiment dit qu'ils sont d'accord sur le nouveau chronogramme qui a été décidé entre les partis, qui concerne le 20 juillet et le 30 juillet prochain pour le retour des autorités intérimaires et du mécanisme opérationnel de coordination.
J'ai dit que moi, je fais partie des gens qui n'ont jamais donné d'importance à ce que disent les groupes armés, parce que leur discours souvent change du jour au lendemain. Mais si ce qu'ils disent se réalise, tant mieux. L'essentiel pour nous, Maliens, c'est que la paix revienne et on veut que cette paix la revienne, quelle que soit.
Toujours avec vous, Ami Baba Cissé. En même temps, sous la pression des États-Unis, l'ONU devra réduire le budget des casques bleus de 600 millions de dollars, soit 7,2% du budget global, une décision qui devrait être validée par l'Assemblée générale de l'ONU ce vendredi. Alors, quelles seront les conséquences sur le Mali à travers la MINUSMA de cette réduction du budget des casques bleus?
Nous l'avons dit, la MINUSMA fait déjà beaucoup et je pense que les priorités, les difficultés se multiplient. On aura encore besoin de moyens. L'État qui est là, Serge dit, il faut faire la politique de ses moyens, ne pas dépasser les moyens de sa politique. Je pense que la MINUSMA aujourd'hui joue un grand rôle, à la fois militaire, à la fois social, à la fois financier. Mais si Donald Trump qui vient aujourd'hui veut changer la donne, je pense que c'est lui qui dirige le monde, en quelque sorte. Des conséquences, je ne suis pas un spécialiste pour te le dire, mais je pense que ça peut quand même, de façon plus ou moins négative, inverser une certaine tendance.
Boubacar Cissé, est-ce que vous pensez également qu'il y aura des conséquences sur le Mali à travers la MINUSMA? Bien sûr, est-ce que vous pouvez nous en parler par rapport à la réduction du budget des casques bleus?
Bon, par rapport à la réduction du budget des casques bleus, ça peut avoir des conséquences sur le rôle de la MINUSMA au Mali, puisque la MINUSMA, on le sait, la MINUSMA a quand même travaillé pendant tout ce temps, depuis son installation jusqu'à aujourd'hui, avec des moyens vraiment, qu'on peut dire, des moyens colossaux. Mais s'il faut réduire encore ces moyens financiers de la MINUSMA, est-ce qu'ils vont atteindre ce que la MINUSMA s'est fixé comme objectif ici au Mali? C'est pourquoi j'ai parlé de mandat à long terme dans mon intervention, dans ma première intervention. Il faut que le mandat de la MINUSMA soit à long terme avec un grand moyen. Mais s'il faut, avec ce moyen-là, il faut encore diminuer, je crois que le mandat de la MINUSMA ne va pas être un mandat vraiment à souhait.
Serge, que pensez-vous de cette réduction du budget des casques bleus?
Alors, il ne faut pas penser qu'on réduit le budget des casques bleus à cause du Mali. Parce que le Mali n'est pas la seule mission de l'ONU dans le monde. Oui. Alors, quand ça arrive comme ça, ça c'est donc l'administration de Trump qui a décidé, il y a des priorités. La mission au Mali est la mission la plus coûteuse en vie humaine, la plus dangereuse, la mission de l'ONU la plus dangereuse. Je pense que malgré cette réduction de budget, la priorité sera accordée à des pays comme à des missions comme la MINUSMA. Donc renforcement du dispositif, mais évidemment, ça aura un impact sur les autres missions en RDC ou ailleurs ou dans le monde, parce que s'ils n'ont pas assez d'argent, ça fait moins de missions, moins de casques bleus, moins d'interventions, etc. Je crois qu'ils vont faire le point très rapidement, mais que le Mali va rester la priorité quand même de la mission de l'ONU, si vous voulez, dans le monde, parmi les opérations de maintien de paix. En revanche, si le processus s'enlise davantage, je crois qu'il peut avoir facilement un ras-le-bol de la communauté internationale, qui peut dire, mais finalement, donc nous n'avons pas le bon bout, arrêtons de faire les dégâts, nous avons des casques bleus qui tombent comme des mouches, excusez, pardonnez de l'expression, et que nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, nous sommes à qui tout double, si vous voulez. Moi, je n'ai pas tellement d'inquiétude par rapport à la réduction du budget c'est toujours pas une bonne chose, mais par rapport au Mali, je n'ai pas peur. Ça va avoir probablement, le Mali va rester une priorité, mais si ça n'évolue pas d'ici là, sur le terrain, s'il continue à avoir des pertes importantes en vie humaine dans le camp des casques bleus, ça peut faire réagir malheureusement la communauté internationale.
Alors, parlons maintenant du sommet du G5 Sahel. Emmanuel Macron est attendu ce dimanche à Bamako pour ce sommet réunissant la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Écoutons la réaction d'André Bourgeot par rapport à cette force du G5 Sahel.
Jusqu'à présent, on ne sait pas exactement de combien cette initiative disposera. Ensuite, se pose aussi le problème de la formation des armées nationales concernées, à savoir les armées de Mauritanie, du Mali, du Niger, du Burkina Faso et puis du Tchad. Une nouvelle initiative dans les relations entre la France et l'Allemagne. Alors, est-ce que la France, à travers Barkhane, soutient l'initiative? Oui, que le président Macron sera à Bamako dimanche. Mais la question que l'on peut se poser, est-ce que ça ne préfigure pas un retrait progressif des militaires français de Barkhane et ensuite de passer le relais au partenariat franco-allemand et puis aussi de la Belgique. Si l'initiative actuelle n'a pas le soutien des pays que vous avez mentionnés, ça ne peut être que quelque chose de négatif. Mais encore une fois, se pose le problème de est-ce que ces armées nationales ont reçu une formation suffisante pour lutter contre le terrorisme?
Alors, que pensez-vous, Ami Baba Cissé, de cette déclaration d'André Bourgeot qui pointe du doigt la formation des armées nationales?
Et évidemment, ce problème se pose en Afrique, ça on ne peut pas le nier. Même si l'Union européenne et d'autres partenaires tentent de faire rehausser le niveau des armées, particulièrement celle du Mali. Mais cette réaction, pour un peu revenir à l'ambassadeur russe, il y a une à deux semaines qui était là, qui disait que la multiplication des forces affaiblit la sécurité, affaiblit même souvent les actions, parce qu'il estime que ce sera une force de plus. Mais moi, je ne pense pas cela, parce que le général qui était là la dernière fois l'a dit, Barkhane, c'est 4000 hommes, et c'est sur une très très longue distance. Donc, c'est difficile que les forces de Barkhane puissent intervenir à tout bout de champ dans ce qui se passe. C'est pourquoi le G5 Sahel va servir de remède et surtout de renfort aux forces national, mais aussi à la puissance qui est Barkhane. Donc je pense que le G5 Sahel, si les moyens sont là, parce que ça aussi c'est un problème, on ne peut pas définitivement, indéfiniment continuer à donner des armes à des armées. Il faudrait que nous-mêmes on arrive à faire ce boulot. Ces Tchadiens, ces Mauritaniens qui viendront, il va falloir que eux aussi, on assure leur sécurité, on assure leur nourriture. C'est encore les moyens qu'il faut avoir. Qui va le faire? La France, je ne sais pas, peut-être que Serge nous le dira, mais je pense quand même que ça va être une autre MINUSMA sous un autre nom. Mais cette fois-ci, ça va être une force combattante, je pense bien.
Ah. Serge, sera-t-elle une force de plus?
Non, ce ne sera pas du tout une force de plus. Moi, je ne pense pas. Quant à la présence française, il n'y a pas de doute, j'ai jamais eu de doute, la France ne souhaite pas, dans le Sahel ou dans le nord du Mali, une présence terrestre prolongée. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des milliers de soldats français au sol, comme on voit par exemple les casques bleus de l'ONU entre Gao et Kidal, Gao et Tombouctou. Je pense que la France ne souhaite pas cela. La deuxième chose, quand vous rencontrez les officiels français, ce qu'ils souhaitent, c'est que les Africains s'occupent eux-mêmes de leur sécurité. Et moi, je pense que ça, c'est l'idéal. C'est que si vous êtes indépendant et que vous ne pouvez pas vous occuper de la sécurité de vos populations, vous n'êtes pas indépendant. Donc, c'est à nous de nous occuper de notre sécurité. Et que des puissances étrangères viennent, par exemple, en renfort, ça, c'est bien. Ce qui est intéressant dans la force, il y a un côté défense où on n'a pas les chiffres, mais on sait à peu près combien ça de personnes il y aura. C'est la géographie des frontières, c'est-à-dire qu'ils vont lutter. Vous avez trois principales frontières, la frontière Mauritanie-Mali, mais vous avez trois frontières, Mali, Niger, Burkina, ça c'est capital, et puis de l'autre côté, vous avez la frontière Niger-Tchad. Dans un premier temps, les forces, il y aura un commandement opérationnel qui sera basé à Sévaré, donc au centre du Mali, et vous allez avoir un relais, donc information, échange d'informations, de renseignements, et chaque armée va d'abord s'occuper de ses frontières. Et ensuite, on va y avoir une déclinaison où on va voir des armées opérer le long des deux frontières. Je pense que c'est une force utile, c'est pas un petit machin, je ne crois pas du tout. Il y a cette volonté. Maintenant, c'est de voir comment on va coordonner tout cela. Il y a eu 50 millions d'euros déjà mobilisés, comme vous le savez. J'ai entendu parler de la formation. Ce sont des armées qui vont se former sur le terrain. La meilleure école, c'est le terrain. Je pense que ça peut jouer un rôle important dans le ralentissement des trafics de drogue, dans le ralentissement des trafics d'armes. Ça peut être quelque chose d'utile.
Mais c'est le commandant Didier Dacko qui est le commandant de cette force, n'est-ce pas? Alors, certains se posent la question, pourquoi c'est le Conseil des ministres alors que c'est une force qui concerne beaucoup d'autres pays, notamment la Mauritanie, le Niger. Alors pourquoi c'est le Conseil des ministres qui choisit le commandant de cette force?
Bien sûr, parce que le Mali quand même est au centre de la chose. Il faut savoir que M. Didier Dacko était le patron de l'armée. Il est le patron aujourd'hui du G5 côté militaire. Mais il rend compte aux chefs d'état-major des pays respectifs. Il n'est pas le patron des chefs d'état-major des pays membres du G5, donc c'est plutôt coordonné. Donc à partir du moment où on donne le commandement opérationnel direct au Mali, donc basé à Sévaré, il sera basé en principe à Sévaré, et il y a un commandement secondaire dans d'autres pays comme la Mauritanie pour coordonner les actions. Parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'on est sous-informé, c'est-à-dire que lorsque les Maliens ont l'information que tel terroriste est à la frontière, on n'arrive pas rapidement à prévenir les autres. Peut-être que ça sera une bonne chose aussi.
Merci.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Alors maintenant, nous allons parler du projet de révision constitutionnelle. Monsieur Boubacar Cissé, quelle est la situation à Sikasso dans la cité du Kénédougou?
Par rapport au projet de la révision de la Constitution à Sikasso, je peux dire qu'en ce moment, nous sommes au vendredi. Comme je dis, déjà, il y a les associations, la société civile, qui projette vraiment une très grande marche ici dans la ville du groupe, notamment avec l'association pour le développement de la région de Sikasso. En Bamanakan, on dit Bodine Romaton, qui est en train de se mobiliser. Il y a une semaine depuis après la fête, quand même, ça se sent vraiment. Malheureusement, la semaine dernière, il y a une franche de la population, puisque le parti politique de l'opposition, les militants de l'IRC, qui ont manifesté contre ce projet de révision de la Constitution. Déjà, comme on dit, en tout cas, vraiment, la population de cette fête sortir massivement pour montrer en tout cas la réalité d'avoir par rapport à cette révision et révision de la Constitution.
Alors, il y a des gens là-bas qui disent non, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui sont pour la révision constitutionnelle?
Effectivement, il y a d'autres qui sont pour la révision. Les partis politiques de la majorité, comme on le dit, ils ont également une franche de la population qui est là, qui voit de loin ce qui se passe, mais quand même se mobilise de temps en autre pour dire oui à la Constitution, mais quand même, c'est le nom qui vraiment qui l'emporte. Moi, je pourrais le dire comme ça, quand on voit vraiment la mobilisation au niveau de la ville.
Alors, ce projet de révision constitutionnelle, le référendum a été reporté à une date ultérieure. Ça n'a pas découragé le collectif Anteabana Touche pas à ma constitution qui demande le retrait pur et simple du projet. La coalition, oui, en son nom également se mobilise. Mais il y a aussi quelques semaines, voici la déclaration de la CMA à travers Almou Ag Mohamed, porte-parole de la coordination.
Moi, je pense que les conditions ne sont nullement réunies, pas seulement à Kidal. Pour ce qui concerne la CEMA, elle n'acceptera jamais des élections tant qu'il y a des dizaines de milliers de réfugiés qui vivent en dehors du territoire. On l'a toujours dénoncé depuis les élections antérieures. Et jusqu'à présent, on continue à les dénoncer. Je crois que c'est des personnes qui ont le droit de s'exprimer pour tout ce qui concerne la vie de ce pays. Et ensuite, ce projet de constitution, est-ce qu'il a même pris en compte les préoccupations des uns et des autres? À mon avis, rien n'a changé, à l'exception du Sénat, bien sûr, où les pouvoirs du président de la République ont été renforcés. Je ne vois pas ce qui a changé.
C'est plutôt Illad. Alors, quelques jours après, il y a deux jours, voici la déclaration de Djeri Maïga, également membre de la coordination des mouvements armés.
Nous avons signé un accord avec le gouvernement. Donc si on a quelqu'un qu'il faut accompagner, c'est ce gouvernement. Et nous allons accompagner le gouvernement parce que vous savez que la révision constitutionnelle, c'est l'accord qui le dit. Il y a plusieurs clauses de l'accord. Si on ne révise pas la constitution, ils ne verront jamais le jour. Et tant que l'accord n'est pas appliqué à la lettre et dans son esprit, la paix serait très difficile parce que c'est des engagements qu'on a pris. Tout ce qu'il faut faire pour aller vers cette paix, il faut le faire. Donc, dans ce cadre-là, en tant que président de la commission politique de la CEMA, on est obligé d'accompagner le gouvernement. On est obligé de le faire soumettre nos revendications. Des revendications que nous estimons être vraiment valables pour la bonne application, pour la quiétude, pour notre pays. Mais aussi l'accompagner pour le vote. Mais l'accompagner, dire que oui, nous sommes pour, parce que si ce n'est pas fait, il n'y aura jamais l'application de l'accord.
Alors, Ami Baba Cissé, il y a quelques semaines, le porte-parole de la CMA disait être contre cette révision constitutionnelle. Quelques jours après, un responsable de ce même groupe sort pour dire qu'ils sont d'accord, ils soutiennent le gouvernement. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis?
Écoute, les deux versions que vous avez diffusées sont contradictoires. Mais moi, je ne me fie pas trop à cela. Je pense que s'ils pensent qu'en accompagnant le gouvernement, ils peuvent aboutir à une révision constitutionnel facilement, ils sont en train de se tromper. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le peuple malien, pour l'instant quand même, à travers notre observation, de façon majoritaire, qui est opposée à ce référendum, les magistrats, les avocats, les syndicats.
Oui, mais entre les responsables, la CMA même, ils étaient d'accord il y a quelques jours. Après, ils sont maintenant, ils n'étaient pas d'accord il y a quelques jours et maintenant, ils sont d'accord. Alors, qu'est-ce qui a changé?
C'est ce que j'ai dit. Pour moi, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, que ce que ces groupes armés disent, moi, ça ne m'enchante pas trop parce que je pense que leur langage n'a pas de valeur, sérieusement. Donc, pour tout simplement te dire que je pense que pour ne pas encore embraser la situation, parce que les groupes armés ont signé un accord. Et cet accord qu'on a déjà mis au-delà de la Constitution, qu'on veut, comment on peut faire fondre dans cette Constitution, ce n'est pas de cette manière que ça doit se faire. Tout le monde sait aujourd'hui que le problème sécuritaire se pose. On était en train d'en parler tout de suite. Si vous pensez qu'il faut tenir un référendum, je pense que vous ne pouvez pas le faire sans ce peuple-là qui est en train...
Vous parlez du gouvernement.
Je parle du gouvernement, je parle de ces groupes armés. Il y a même une tendance qui dit oui. Moi, particulièrement, je pense qu'il faut, pour l'instant, sursoir à ce référendum, échanger à ce que les Maliens se concertent, parce que ça risque d'amener un problème plus grave que ce qu'on a connu. Parce que là, c'est le peuple. Et quand le peuple bourdonne, je pense qu'il faut ouvrir au moins un peu une oreille.
Alors, M. Cher Daniel, vous, que pensez-vous? Qu'est-ce qui a changé entre-temps, vu qu'avant la CMA était contre et maintenant elle est pour?
Je crois qu'ils ont évolué, peut-être, probablement. Le problème n'est pas la révision, à mon avis. Tout le monde est d'accord avec la révision. C'est-à-dire que déjà, depuis Alphonse Conaré, nous sommes en 2002, il devait y avoir une révision, ça n'a pas fonctionné. Au temps d'ATT, pardon, ça n'a pas fonctionné. Et on a une autre tentative. On espère qu'elle va recueillir il y aura un consensus autour de ça. Le problème, c'est le moment choisi. La bagarre que vous voyez aujourd'hui, j'ai vu bagarre entre guillemets, c'est le moment choisi. Certains, vous avez un camp qui estime que non, qu'on ne peut pas battre campagne, qu'il faut libérer les villes, le centre est, une partie du centre est occupée, que des Maliens ne peuvent pas voter au centre, au nord, et donc il faut repousser le référendum. Vous avez une autre part qui dit non, nous devons aller au référendum parce que le référendum va passer. L'opposition a peur, c'est ce que dit cette partie, parce que ça sera un premier tour, ça sera comme le premier tour de la présidentielle, c'est-à-dire qu'il y aura un oui, et que s'il y a un oui, que dans un an, le président va passer vraiment comme si c'était sur un boulevard. Alors, vous avez deux positions assez tranchées, mais il faut faire attention à une chose, c'est l'unité de ce pays. Ce qui, moi, en tant qu'observateur, me choque pas, mais qui m'interpelle, c'est que jusqu'à présent, je ne vois pas de bonne volonté qui tente de réconcilier les deux positions. J'ai entendu le médiateur prendre indirectement position, peut-être qu'il fallait pas prendre position et rassembler davantage les positions, les points de vue. Vous savez que demain, il y a une marche.
Un meeting, oui.
Un meeting à Bamako, il est interdit.
Le gouverneur.
Par le gouverneur.
Mais la coalition confirme, maintient que le meeting se tiendra.
La coalition maintient que le meeting se tiendra parce que j'ai vu une lettre adressée à un ministre pour dire, écoutez, nous on va marcher, prenez les dispositions. Donc ça va être tendu. Donc il faut que quelqu'un, il faut que de bonne volonté parle aux deux camps parce que les deux camps sont persuadés d'être dans leur bon droit, être dans la vérité. Alors que si vous voyez, le Mali au-dessus de la constitution, le Mali au-dessus de tout le monde. Il faut pouvoir, à mon avis, trouver rapidement ce consensus-là.
Je reprends la réponse du gouverneur qui dit ici, en raison d'état d'urgence en vigueur et de l'arrivée de la même date de plusieurs chefs d'État nécessitant un grand déploiement des forces de l'ordre, il serait difficile d'encadrer à hauteur de souhait votre meeting. Il ne s'agit pas parlant du meeting de Anté à Bamba, ne touche pas à ma constitution, et qui demande que ce soit reporté à partir du lundi. Est-ce que effectivement ce meeting devrait se tenir ou être porté vu
je suis un observateur, je n'ai pas à prendre position pour ou pas, mais je constate que vous avez deux tendances, deux positions qui sont diamétralement opposées et que c'est tendu. Moi je circule beaucoup à Bamako, j'écoute les uns et les autres, je trouve aujourd'hui nécessaire de trouver pas des médiateurs ou tout ce que vous voulez, pour parler de manière d'abord séparée aux deux camps, et ensuite pour que les deux camps se parlent, parce que jusque-là, les deux camps ne se sont pas parlé. Je sais que le président de la République a pris une initiative, vous l'avez constaté à un moment, il a reçu les différents présidents des institutions, les partis politiques, les religieux sur la question. Je n'ai pas vu la suite. Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il va se prononcer là-dessus pour dire, voilà la position que je vais prendre? Je pense qu'il faut savoir raison garder. C'est une expression que le président de la République aime bien, il faut qu'on peut lui retourner la même expression, et que surtout il faut trouver vraiment un point de il faut trouver de bonnes âmes, de bonne volonté pour faire vraiment baisser la tension. Vous avez vu qu'il y avait deux marches en fait demain, une marche pour le oui, une marche pour le non, alors qu'en principe, le référendum, ça doit être une consécration, donc une fête électorale.
Alors, les groupes armés sont maintenant d'accord, la plateforme l'a déclaré, la CMA également. Il y a un nouveau chronogramme pour le MOC et les autorités intérimaires, ce qui signifie en quelque sorte retour de l'administration au nord. Est-ce que, M. Boubacar Cissé, cela signifie que le gouvernement veut répondre au fait qu'il n'y a pas une violation de l'article 118 de la Constitution?
Bon, nous commençons comme c'est la vie, nous sommes des journalistes, on fait que constater, on fait que observer et raconter ce qui s'est passé sur le terrain. Bon, si il y a une violation, oui ou non, de toutes les façons, je sais que c'est sûr, la révision de la Constitution, en tout cas pour le moment, sur le terrain, vraiment, on peut dire que c'est difficile. On ne sait pas ce qui va arriver au Mali dans les jours à venir par rapport à certains qui sont antagonistes de part et d'autre. Également, la manifestation est en train de gagner à l'intérieur du pays, c'est-à-dire les grandes villes comme Kitapé, comme Mopti, comme Kitala, qui sont en train de chercher manifester. Mais si y a des résultats, en fait, au final, ce n'est pas étant un problème en ce qui concerne. Vraiment, c'est une révision de la Constitution, parce que au niveau de l'ouvrage du pays également, on a en train de comprendre que la révision de la Constitution est mal organisée
Merci Monsieur Cissé, Monsieur Ami Baba Cissé. Est-ce que vous pensez qu'avec le retour, si le nouveau chronogramme est respecté, que le référendum pourra se tenir?
Le référendum, le problème c'est pas seulement au nord.
Il y a le centre.
Mais c'est pas seulement au nord. Voilà, évidemment, il y a le centre, il y a même Bamako et ainsi de suite. Il y a des réfugiés qui sont à l'extérieur. Je pense, comme l'a dit Serge, il faut un consensus. Même si aujourd'hui l'intégrité était là, il y a un problème parce qu'il y a des articles, il y a le fond qui pose problème. Pour l'instant, c'est seulement la forme qui est en train de diviser les Maliens. Je pense que le référendum, c'est nécessaire, mais il va falloir qu'on se concerte avant de commettre une autre erreur grave.
Merci, M. Cissé. Alors, dans le forum de la presse de ce soir, nous avons tenté de parler de sécurité avec le renouvellement du mandat de la MINUSMA, également de révision constitutionnelle essentiellement. Nos invités, Serge Daniel, journaliste et écrivain, Ami Baba Cissé du Figaro du Mali, et Baba Ama, qui n'est plus venu, Boubacar Cissé, correspondant de Studio Tamani à Sikasso. Je suis Mohamedou Touré à la technique Gagné Kanté, mise en onde Salim, régie vidéo plutôt Salim Diouara, et le débat a été réalisé par Moumine Sendebou. Merci et à la prochaine.
Le grand dialogue.
Sigi Kanfoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Haloud Mandé.
Chenne Berry. Sigi.